Message 36, donc c'est Romains chapitre 16, et on va faire tout le chapitre. Donc je vous encourage, tout le monde, à prendre l'opportunité cette semaine pour lire l'Épître aux Romains chez vous. Ça ne prend pas trop longtemps, moins d'une demi-heure, si vous faites, disons, deux chapitres par jour, vous allez être presque fini et puis vous finirez rapidement avant de venir dimanche prochain. Romains chapitre 16 et le verset 1. Je vais lire tout le verset. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Kenchré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne, digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc, on va faire un peu de commentaire comme d'habitude. Je vous recommande, donc c'est l'idée que c'est une introduction favorable. Paul veut que l'Église reçoive cette dame comme une bonne chrétienne. Le texte dit que Phébé, notre sœur, est diaconesse. Diaconesse, donc c'est une dame qui sert l'Église de Kenchré. Je ne sais pas si je le prononce correctement ou pas. Afin que vous le receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Donc, Paul dit, il faut que vous l'admettez dans les relations fraternelles et que vous l'assistiez, que vous portez aide dans les choses qu'elle aura besoin, parce qu'elle est en train de déménager, peut-être. C'est peut-être qu'un voyage, peut-être c'est tout un déménagement. Car elle a donné aide. Elle est une genre de patronne. Elle était patronne, elle était protectrice, elle était secouriste à plusieurs et, pour la dire, à moi-même. Donc, c'est une dame qui est digne d'aide. Il ne faut pas la laisser tomber. Okay? Donc, on ne sait pas, mais peut-être Phébé était reconnue dans son église comme diaconesse. Donc, une position officielle dans son église locale. Dans plusieurs églises protestantes, on a des, je ne sais pas comment dire, des positions diaconesses. On a des groupes parfois, des femmes célibataires qui servent dans l'église, etc. Donc, il n'y a rien qui empêche à nos églises de reconnaître le travail des dames et de rendre officiel le ministère des femmes parmi les dames et les demoiselles. Mon église à San Francisco, on a des diaconesses, on a des diacres et on a des diaconesses. Donc, cette dame faisait certainement partie de ceux qui apportaient l'épître aux Romains à Rome. Elle était dans ce groupe-là, c'est pour ça que Paul dit, voilà, Phébé, acceptez-la. Encore aujourd'hui, les églises écrivent une lettre de recommandation quand un frère ou une sœur déménage dans une autre ville. C'est une bonne pratique. Verset 3. Saluez Prisca et Aquila. Donc Prisca, c'est Priscille dans d'autres épîtres, dans les Actes. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Okay? Ils ont exposé, c'est-à-dire ils se sont mis en gage, ils se sont substitués pour Paul. Donc Paul utilise cette expression, toutes les églises des païens, pour dire que son ministère envers les païens a pu être prolongé grâce à l'intervention de ce couple. Donc, on ne sait pas exactement à quoi Paul a fait allusion, mais à un certain moment, ce couple s'est mis en danger pour protéger Paul. Ces gens se sont mis en gage ou en garantie pour la bonne conduite de Paul. Et n'est-ce pas vrai que donner sa vie pour ses amis, c'est le plus grand amour. Donc, ils ont exprimé leur amour pour Paul en se portant gage pour lui. Verset 5, la première partie. Saluez aussi l'église qui est dans la maison. Ah, je trouve ça assez intéressant parce que là, c'est mention d'une première assemblée de maison à Rome. Dans cette liste du chapitre 16. Ce couple a travaillé avec Paul à Corinthe. Ce sont eux qui ont instruit Apollos. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 qu'il y avait une église en Asie qui se réunissait chez eux. Et dans ce verset, nous les retrouvons récemment de retour de l'exil imposé aux Juifs par l'empereur Claude, ouvrant leur maison pour accueillir une des églises à Rome. On dirait que Prisca et Aquilas avaient le don de l'hospitalité. Seconde partie du verset 5. Saluez Epainette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Il y avait, à cette époque-là, comme d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de dames qui portent le nom de Marie. Même ma sœur, son nom au milieu, c'est Marie. Est-ce ce Marie, la mère de Jésus? Impossible de savoir. Cependant, le vieux Siméon, au temple, avait prophétisé sur Marie, dans Luc chapitre 2, verset 35, donc je donne un petit clip. Et à toi-même, une épée transpercera l'âme, en parlant de Jésus qui allait être crucifié. Verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Donc ces deux hommes, parents de Paul, ils sont à Rome, ils étaient sensiblement à Jérusalem à l'époque quand les apôtres étaient toujours à Jérusalem. Ils se trouvaient probablement parmi les premiers convertis de la Judée. Et à un certain moment, on ne sait pas quand, mais ils ont été emprisonnés, persécutés pour la cause de Christ. Et maintenant, ils sont partis d'Israël et ils se trouvent à Rome. Alors, dans cette liste de salutations, Paul va invoquer trois fois les personnes de sa famille, cinq personnes. Okay? Verset 8. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urban, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Verset 10. Saluez Apelles, qui est approuvé ou testé ou essayé en Christ. Éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison de Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez, verset 12, Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Donc je compte deux ici. Mais peut-être il voulait dire, comme Sophie dit, c'est lui qui fait ma volonté, c'est mon frère, ma soeur et ma mère. Peut-être c'est dans ce sens-là. Mais je pense que c'est peut-être aussi dans l'autre sens. Donc ça, c'est cinq personnes. Et à la fin, il va encore citer deux personnes de sa famille qui sont avec lui. Donc ça fait sept personnes dans ce chapitre, potentiellement, qui sont de la famille de Paul. Saluez Asyncrite. C'est difficile ces noms-là. Phlégon, Hermès,
pas trop basse, Hermas et les frères qui sont avec eux. Une deuxième assemblée de maison à Rome. Pourquoi j'ai dit assemblée de maison? C'est parce que avant le 4e siècle, il n'y avait pas de bâtiment d'église. C'était toujours, les chrétiens étaient toujours un peu clandestins jusqu'au 4e siècle après le concile de Nicée, quand Constantin lui-même a fait construire des églises, il a fait écrire des bibles entières pour mettre dans les églises et tout ça. Mais avant, on ne connaît pas des assemblées comme nous avons un petit bâtiment là. Ça n'existait pas avant le 4e siècle. Verset 15. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Donc une troisième assemblée de maison à Rome. Je ne sais plus avec l'histoire de l'Église, peut-être à un certain moment, peut-être au deuxième siècle, il y a une trentaine d'assemblées à Rome. Okay? Donc ça va continuer à grandir, on va le voir dans une minute. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises en Christ vous saluent. Ce que nous apercevons ici, c'est qu'il y a de nombreux chrétiens dans l'église de Rome, bien plus qu'il y a dans notre assemblée. Et ils jouissent d'une bonne communion fraternelle, comme nous. Ils sont unis autour de Christ et de l'Évangile. Ils sont unis autour de la parole de Dieu. Ils sont unis par l'amour les uns pour les autres. Et cet amour est partagé envers les autres églises. Et par ceci, je veux dire que les églises bibliques se reconnaissent et pratiquent l'entraide. Verset 17. Je vous exhorte, frères, je vous supplie, frères, à prendre garde, à vous méfier à ceux qui causent des divisions, qui causent des dissensions, des divisions, des séditions et des scandales. Scandale, c'est ce qui cause le mécontentement ou le péché ou une occasion de trébucher. Au préjudice, au contraire, à l'enseignement que vous avez reçu, donc que vous avez appris. Éloignez-vous de eux. Donc, éloignez-vous, évitez, vous détournez de ces gens-là, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces, donc là, c'est des mots qui sont bien choisis et flatteuses dans le sens de l'élégance du langage, l'éloge, la largesse. Ils séduisent, ils trompent le cœur des simples. Et ce mot simple, c'est les naïfs, c'est les innocents. C'est les gens qui sont sans méfiance. Cette description que Paul donne ici nous fait penser à Ève, quand elle a écouté les propos du serpent dans le jardin. Avec ce petit paragraphe, Paul met l'Église en garde contre ceux qui vont essayer de rompre la communion fraternelle, séparer les faibles et faire d'eux leur proie. Ce souci de protéger les fidèles au sein d'un christianisme pur et biblique se trouve à travers le Nouveau Testament, le dépôt de la foi. Quoi que soit le nom de la religion, le fait c'est que la religion entre les mains des hommes charnels manipule et maltraite les gens. Et c'est pour cela que la vérité et l'amour sont tellement importants. Donc je pourrais multiplier les exemples, mais je vais faire seulement quelques citations. Par exemple, dans 2 Timothée chapitre 2, versets 17 et 18, Paul dit, « De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. » Lorsque Paul parle
aux anciens de l'église de Éphèse. Il les met en garde au sujet des faux frères, des faux enseignants. C'est ces versets qui dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître, donc bien nourrir, l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc au lieu de après le Seigneur, les disciples du Seigneur, c'est les disciples de ces gens-là. Aussi, sans chercher les références, je vais dire qu'à plusieurs reprises dans les évangiles, le Seigneur Jésus nous a mis en garde contre les faux enseignants. Il a prophétisé que beaucoup de séducteurs et beaucoup de faux prophètes se lèveront. Et puis je vais lire en 1 Jean chapitre 4, verset 1, où Jean dit: bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il ne faut pas être simple, il faut être méfiant, voilà. Ne soyez pas simple, soyez méfiant. Il dit: bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez, testez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc dans ce verset 17, la parole dit de vous éloigner de ceux qui enseignent les faussetés. Jésus a dit de ne pas vous approcher de ces gens-là, de garder votre distance. Et nous, on dit: ah tiens, il y a quelque chose de bizarre là, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Non, ne vous approchez pas, gardez votre distance. C'est ça que Jésus a dit. Parce que si vous commencez à écouter, Jésus vous a déjà dit, ils vont vous tromper. Vous allez trouver que c'est intéressant. Oups, c'est pas une bonne idée. Ceci est une application de l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 18 sur la discipline dans l'Église. L'Église locale est censée protéger les fidèles des loups. Il a dit, les loups cruels vont venir protéger les brebis. Paul, à l'instar de Jésus, dit que le mal est comme un levain qui se propage à travers toute la communauté si on le laisse agir à son gré. La parole de Dieu parle de ces choses longuement et souvent, car nous sommes responsables, nous les chrétiens, nous sommes responsables de rester fermement attachés à la vérité. La Bible dit que l'Église locale, donc elle appelle l'Église la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons nous tenir en garde contre les divisions, contre les scandales, les égoïstes, les séducteurs, les gens avec des paroles douces et flatteuses. Pour les reconnaître, il faut que vous soyez familier avec la vérité. Ce ne sont ni vos émotions, ni votre intelligence qui vont vous protéger. Ce qui va vous aider, c'est votre soumission à la vérité de la parole de Dieu, votre marche dans l'amour et le ministère de votre église locale. Notons encore, parce que j'en ai déjà parlé de ça, mais Dieu n'a doté aucune église de puissance politique ou judiciaire. L'église est une communauté de croyants et notre puissance, la puissance de l'église est spirituelle et morale. La séparation par éloignement, dont Paul parle ici, est la seule discipline autorisée à l'église. Nous devons être vigilants pour rester dans la vérité et nous éloigner de tout ce qui s'écarte de la vérité, tout en gardant une attitude correcte vis-à-vis des autres. Verset 19. Pour vous, donc, en parlant aux chrétiens à Rome, pour vous, votre obéissance, votre soumission est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Paul constate avec joie que l'Église à Rome est sur la bonne route. Il n'y a pas encore de désordre chez elle. L'Église primitive à Rome avait un bon témoignage. Les membres obéissaient à l'Évangile. Ils étaient pleins de bonnes dispositions. On a parlé de ça la semaine dernière. Ils n'étaient pas pollués par le mal. Ils se tenaient fermes à l'écart du mal. On vient de lire ça. Cela a dû être un constant combat pour les chrétiens à Rome, considérant le climat culturel de Rome à cette époque-là. Et nous aussi, dans notre contexte culturel, nous devons pouvoir, nous aussi, comme les Romains ont pu faire à leur époque, nous devons pouvoir nous tenir fermes contre le mal. Verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Écrasera rapidement Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous. Au premier abord, ce verset semble difficile à comprendre. Donc j'ai regardé dans les commentaires pour m'aider et les commentaires invoquent une victoire quelconque sur Satan ou peut-être le règne de Christ dans l'Apocalypse chapitre 20. Certaines font référence également à Genèse chapitre 3 et verset 15. Je pense que nous devons voir ici que le Dieu de paix, donc source de la paix éternelle, va répandre l'Évangile dans la ville de Rome par de nombreuses conversions à Christ. Donc c'est pour cela que j'ai mentionné tout à l'heure que plus tard il y aura un grand nombre d'assemblées à Rome. Okay? C'était une grande ville, mais il y avait de nombreuses assemblées. Grâce à l'évangélisation des membres de l'Église, le royaume des ténèbres va perdre beaucoup de captifs à Rome, car les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Dieu avait dit à Paul que beaucoup de personnes à Corinthe allaient se convertir, de même que ici, il est en train de dire que beaucoup de personnes à Rome vont se convertir à Jésus. Verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Donc il y a au moins deux ou trois dans cette liste-là qui sont de sa grande famille aussi. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. Donc, normalement, c'était, il y a un mot spécial pour ça, mais je ne connais pas, c'était un scribe, on va dire, qui écrivait les lettres pour Paul. Il y a une lettre que Paul écrit, elle dit, voilà, j'ai écrit ça, vous voyez, c'est en grand caractère parce que j'ai mal à voir. Donc, il a dit, voilà. Et donc, il a fait son signature, et donc, Paul va mettre son signature ici, mais il utilise cet homme, Tertius, pour, en fait, écrit les lettres sur le parchemin ou sur le papyrus pour cette épître. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Donc, Gaius a reçu Paul et Gaius a reçu aussi d'autres chrétiens des autres églises quand ils sont passés là où se trouve Paul. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue ainsi que le frère Cactus. Donc, je trouve drôle, je ne sais pas si c'est frère de frère, mais Tertius est troisième et Cactus est quatrième. Donc, j'aurais pu nommer mes enfants le premier, le second, le troisième et le quatrième. C'est ça qu'ils ont les noms 1, 2, 3 et 4. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors, je vais dire que quand j'étais à l'université, donc l'université de la Californie, donc c'était une université laïque, c'était dans le département histoire, et mon professeur d'histoire, donc mon professeur principal à l'université, il était agnostique. Et il disait combien, il le disait avec émotion d'ailleurs, combien il appréciait les lettres de Paul. Bien que non croyant, il reconnaissait que les lettres de Paul étaient des écrits historiques, intacts, d'un véritable homme romain. Ça, c'est, en fait, c'est rare. Et lui était tout ému à chaque fois qu'il ouvrait une lettre de cet homme romain. Il ne croyait pas, bien sûr, mais il comprenait ce que c'était. Verset 25. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, on va revenir sur ce mot-là, du mystère caché pendant les siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent, qu'elles se soumettent, qu'elles se conforment à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. L'idée d'obéissance et de soumission à la foi signifie que c'est Dieu qui a créé le christianisme biblique. C'est lui qui a créé la doctrine chrétienne. C'est lui qui a formé la pratique biblique chrétienne. Ce n'est pas à nous de créer notre propre christianisme. J'ai parlé un petit peu de ça la semaine dernière. C'est à nous de reproduire le christianisme tel qu'il est enseigné dans le Nouveau Testament, et ceci à la gloire de Dieu. Dans le verset 25-26, on a cette révélation du mystère caché. OK? Mystère caché, mais maintenant manifesté, et même porté à la connaissance des nations. D'accord? Donc, on a ce mot mystère. Dans le Nouveau Testament, un mystère est une chose auparavant cachée, mais maintenant dévoilée, maintenant révélée, plus cachée. Et le verset dit, le mystère maintenant manifesté à la portée de la connaissance, il dit de tout le monde. Okay? Il faut simplement le lire dans le Nouveau Testament. Donc, ici, en fait, dans les versets 25-26, Paul parle du plan de Dieu depuis la chute d'Adam jusqu'à l'accomplissement de l'évangile. Et on peut lire dans Colossiens chapitre 2, c'est dans les versets 2 et 3, où Paul dit nettement, le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ est le mystère. Il était caché à travers les siècles et il s'est manifesté pour nous sauver. Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc Paul dit que par la révélation de l'évangile de Jésus, Dieu peut vous affermir. Il a le pouvoir de vous fixer fermement en place. Lui seul a la sagesse de le faire et vous pouvez lui faire confiance. Donc juste pour terminer, je vais vous donner une pensée qu'en fait, j'ai pris dans Colossiens chapitre 2, versets 5 à 7, mais je l'ai modifié pour nous aujourd'hui. Nous devons compter sur Dieu pour nous protéger et nous affermir afin que le bon ordre règne parmi nous. Et puisque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, ayons la fermeté de la foi. Marchons en Christ étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui nous ont été données dans la parole de Dieu et que nous puissions abonder en action de grâce. Action de grâce et reconnaissance envers Dieu. Amen. Amen.